Bonjour à tous. Je vous propose d'ouvrir la parole de Dieu ce matin dans Romains. Dans Romains, nous allons prendre le chapitre 8 et nous lirons les versets 12 à 17. Romains 8, 12, 17. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre, pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. On dit souvent, et on a sans doute raison, que l'Église, c'est le lieu de la communion fraternelle. Mais qu'est-ce qu'on met derrière cette expression ? La convivialité, la solidarité, l'amour les uns pour les autres, sans doute, et c'est en effet quelque chose d'extrêmement important dans une église. Mais j'aimerais que nous demandions ce matin ce qui fonde cette communion fraternelle. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait de nous des frères et des sœurs? Qu'est-ce qui nous permet de comparer l'église à une famille? Et surtout, qu'est-ce que cela implique? La réponse à ces questions tient à une phrase. C'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. On vient de le lire au verset 14. Tout ce que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Ce qui fait de nous des frères et des sœurs, ce n'est pas le fait d'être bien ensemble, ni même d'être membre d'une même église, c'est notre relation à Dieu par son esprit. Mais faire partie de la même famille spirituelle, qu'est-ce que cela implique? Tout ce que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu, nous dit la parole. Il s'agit bien sûr de partager le même guide, le même moteur, d'être animé de la même vie, être engagé sur le même chemin spirituel. Et la métaphore de la marche est très présente dans le Nouveau Testament. Il suffit de se souvenir de l'appel de Jésus répété à ses disciples. Viens, viens et suis-moi. À plusieurs reprises, on trouve l'exhortation de marcher par l'esprit. Et parfois, plus que la marche, c'est l'image de la course qui est utilisée. Par exemple, en Philippiens, au chapitre 3, j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant, et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Et si sur un point vous pensez autrement, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. En tout cas, continuons la même route que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Remarquez-le, l'important c'est de courir vers le but. Mais c'est aussi de le faire ensemble, de continuer ensemble sur la même route. Être en communion fraternelle, c'est marcher sur le même chemin à la suite du Christ. Pourtant, certains considèrent la vie chrétienne comme une marche solitaire. La foi serait alors une affaire privée. La vie chrétienne, quelque chose de personnel, intime, caché. Mais ce que nous dit la Bible, c'est tout à fait différent. Il s'agit non seulement de se mettre en marche, ne voyez aucune connotation politique là-dedans. Donc il ne suffit pas de se mettre en marche chacun, mais de se mettre en marche ensemble. Alors bien sûr, oui, nous sommes une armée, mais ça ne veut pas dire qu'on doit marcher au pas. Tout le monde dans le rang, je ne veux voir qu'une seule tête. Mais si on parle de communion fraternelle, on ne peut pas seulement se retrouver sur le même chemin en s'ignorant. Prêtons attention les uns aux autres. Soyons prêts à soulager le fardeau de celui qui est fatigué, voire de s'arrêter quelques instants avec celui qui en a besoin. Il y a quelques jours, nous avons organisé autour de Glissant un pique-nique, suivi d'une balade. Nous étions une vingtaine. Il faisait encore beau. Et après avoir partagé un repas convivial, nous avons décidé de partir à pied. Quelques-uns ne se sont pas sentis de faire cette promenade. Alors ils ont joué à la pétanque. C'est important, la pétanque, dans la communion fraternelle. Je suis très sérieux. Et dans le groupe de marcheurs, il y avait des personnes que je connaissais, d'autres que je connaissais beaucoup moins, et d'autres que je ne connaissais pas du tout. Et puis, il y avait plusieurs niveaux de marcheurs. Il y avait ceux qui allaient vite, les entraînés, là. Ils étaient équipés de bonnes chaussures et waouh, warrior. Puis il y avait ceux qui prenaient le temps. Le site était magnifique. Et puis ceux qui avaient un peu plus de difficultés. Et alors des groupes se sont formés, naturellement. Par niveau de marche, mais aussi par affinité. Et les discussions allaient bon train, alors je ne citerai personne, il y avait des groupes pour lesquels les discussions allaient encore plus bon train que d'habitude, que d'autres. Mais bon, je ne vise personne. Pas de nom, s'il vous plaît. Mais chacun marchait à son rythme. Et au bout d'un moment, le groupe était très étalé. Et là, on voyait peut-être quelques-uns qui étaient plus vaillants, encourager ceux qui avaient plus de difficultés, les aider à monter la petite côte qu'il y avait à Mondodé, qui était un peu caillouteuse, ou la descente. Il y a eu une descente qui était assez impressionnante. D'ailleurs, je vous montrerai une vidéo qui a été prise dimanche dernier, où il y a une personne ici présente qui les monte cette côte en quad. C'est assez impressionnant. Mais là, je fais une aparté. Ce qui est important, c'est que tout le monde a atteint le but. Le but, c'était de retrouver le point de départ, de retrouver nos joueurs de pétanque et d'avoir passé un moment ensemble, sur une même route. Chacun à son rythme, chacun avec sa personnalité. Ceux qui n'avaient pas voulu faire la balade et ceux qui avaient fait la balade, chacun à son rythme et chacun en s'aidant et en se retrouvant. Et l'Église, c'est un peu ça. Des personnes qui viennent d'horizons différents, géographiquement, socialement, politiquement même peut-être. On peut venir aussi d'églises complètement différentes. Mais c'est ce patchwork qui forme l'Église. Il y a des personnes avec qui j'ai des affinités, puis d'autres avec qui j'ai moins d'affinités. Mais chacun fait partie de ma famille. Chacun avec sa personnalité. Un qui est l'autre qui est plus calme. Chacun avec son identité, son rythme. Mais nous faisons partie de la même famille. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Mais c'est quoi faire partie de la même famille? Pour revenir au texte qu'on a lu tout à l'heure en introduction, au verset 16, la parole nous dit « L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. » Et nous sommes enfants de Dieu parce que nous le sommes devenus par adoption. Le seul fils naturel de Dieu, c'est Jésus. Et nous, nous sommes ses fils et ses filles adoptifs. C'est ce qu'on peut déduire du statut de co-héritier du Christ. Vous vous souvenez peut-être, il y a 15 jours, je vous ai parlé du testament que nous a laissé mon arrière-grand-mère. Alors pour ceux qui étaient absents, il sera en aparté de la prédication sur le site dès cet après-midi. Adopté par le même Père. Nous faisons partie de la même famille. La famille de Dieu. C'est pas merveilleux ça? Et ça change notre relation à Dieu. L'esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Au verset 15. Abba Père. Abba Père, c'est un cri personnel, un cri qui est intime. Parce que l'araméen Abba implique une relation personnelle. Parce que Dieu n'est pas simplement Père dans un sens général de créateur. Il est mon Père. Celui qui m'a sauvé. Celui qui m'a adopté parce qu'il m'aime. L'apôtre Paul insiste ici sur la différence entre esclave et enfant adopté. Deux façons d'appartenir à Dieu, mais deux façons différentes d'être en relation avec lui. Et même si la notion de serviteur de Dieu est aussi présente dans le Nouveau Testament, Paul insiste ici sur le statut de enfant de Dieu. Si nous sommes tous serviteurs de Dieu et rien de plus, alors nous sommes des compagnons de service, mais rien de plus. On pourrait presque dire des collègues de bureau. Mais si, en plus d'être serviteurs, nous sommes tous enfants de Dieu, alors nous sommes frères et sœurs. Notre relation à Dieu est basée sur l'amour, dans le respect de nos différences. Et notre relation les uns aux autres en échangé. Je ne choisis pas mes frères et mes sœurs, mais eux comme moi. Vous comme moi avez été choisis par Dieu. Et d'une certaine façon, vous comme moi avons choisi Dieu comme Père. Notre relation personnelle avec Dieu détermine notre relation avec nos frères et nos sœurs. Et si nous voulons développer notre communion fraternelle, nous devons développer ensemble notre communion avec notre Père. Partager le même héritage par le Fils. Littéralement, le texte dit simplement que nous sommes héritiers de Dieu. Simplement, c'est quand même pas rien. Mais l'apôtre précise que nous sommes co-héritiers de Christ. Parce que c'est par Christ que nous recevons cet héritage. La communion fraternelle, c'est partager le même héritage par le Fils. Notre nom est inscrit sur le testament de Dieu, sur le livre de vie. Nous sommes co-héritiers de Christ. Et le Christ n'appartient à aucun chrétien. Le Christ n'appartient à aucune église. On sait les problèmes que les questions d'héritage posent souvent dans les familles. Je vous en ai parlé il y a 15 jours. Vous vous souvenez quand je jouais à l'héritage avec ma sœur, en déballant le buffet, et en se partageant les assiettes et les couteaux. Les questions de famille, les héritages, où chacun veut avoir la meilleure part du gâteau, où on va contester telle ou telle clause du testament, etc., etc. Mais est-ce qu'il n'en est pas ainsi, parfois, dans l'Église? Non seulement entre nos différentes églises, nos différentes communautés, mais aussi ici, à l'intérieur de l'Église. Est-ce que quelquefois, on ne veut pas se batailler pour dire « Moi, j'ai cette épargne d'héritage du Christ, et moi celle-ci. » Ah ben non, toi, c'est pas celle-là, moi c'est celle-ci. Et pourtant, partager l'héritage de Dieu, c'est pas le diviser. Partager l'héritage du Seigneur, c'est le multiplier. L'infini se partage à l'infini, sans jamais se réduire. Et notre héritage, c'est quoi ? C'est la vie éternelle. Elle ne se partage pas. Elle se partage, mais elle se multiplie. Parce que tu as la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. Ce n'est pas un bout, chacun de notre vie éternelle. Toi, tu as 2 ans, moi j'ai 5 ans, parce que je suis mieux que toi, parce que toi, tu n'as que 2 ans, moi j'ai 5 ans. Non, nous avons tous la vie éternelle. C'est notre héritage. C'est la prochaine messe que nous fait le Seigneur. Nous partageons une même foi, une même espérance et un même amour. Mais on n'est propriétaire de rien du tout. Méfions-nous des églises ou de nous-mêmes qui estiment être propriétaires du Christ, détentrices de la vérité, la seule fidèle à la vraie foi. Église, ce qui serait la seule héritière du Seigneur. Parce que en voulant s'accaparer l'héritage de Dieu, on va s'appauvrir. Mais en le partageant, on s'enrichit. Peut-on rêver d'une église où la communion fraternelle serait centrale, sans qu'il y ait une communion fraternelle avec les autres églises? Une communion fraternelle sectaire est-elle encore une communion fraternelle? Nos frères et nos sœurs en Christ ne sont pas que ici dans notre église, parce que l'héritage de Dieu se partage avec tous ceux qui lui appartiennent. Alors pour conclure mon propos de ce matin, je dirais que mettre la communion fraternelle parmi les priorités dans l'Église, c'est bien, c'est important, il faut le faire. Mais ce n'est pas simplement espérer plus de convivialité, de joie d'être ensemble, ou espérer qu'on s'occupera mieux de nous. C'est vouloir vivre vraiment la réalité de la famille de Dieu, chacun pour sa part. Cheminer ensemble par l'esprit et pas seulement les uns à côté des autres. Être adopté par le même père et pas seulement être collègue dans le même bureau spirituel. Partager le même héritage par le fils et pas vouloir se l'accaparer. Alors, notre vie d'église sera une véritable histoire de famille, une belle famille, la famille de Dieu. Amen.
Merci Thierry. Ça, c'est moi qui travaille dans une école, ça pourrait presque m'inspirer un problème. Hein, on imagine, alors il y a trois personnes qui se partagent un héritage, le premier reçoit la moitié, combien touchent les deux autres, par exemple? Et puis un problème que je ne pourrais jamais donner dans mon école, c'est des milliards de chrétiens depuis tous les temps se partagent l'héritage de Dieu. Combien reçoit chacun? Tout.